franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
À la une de la presse, c'est évidemment le compte à rebours avant le premier tour de la présidentielle.
Et toi, tu sais pour qui ? La petite question qu'Alain Raymond pose dans son billet de la Croix ce matin est sans doute celle qui agite vos repas en famille ou entre amis depuis plusieurs jours. Cette question, pour qui voter ? Reste encore sans réponse pour un électeur sur trois, semble-t-il, et c'est du jamais vu. 4 jours pour convaincre, calcule bizarrement Ouest-France. À 6 jours du premier tour, calcule tout aussi bizarrement le Figaro, l'incertitude est totale.
Oui,
vous faites quoi ?
Ils sont trompés, le Figaro.
Ben, 4 jours aussi, bon, finalement, on va dire 5.
Ah non. Oui, d'accord.
Bon, mais... on est à 5, on est à 4. Bon,
vous n'êtes pas à 6.
On n'est pas à 6. Allez, on n'est pas à 6.
Ah non, à 6, c'est lundi prochain.
Bon, bref, vous faites quoi ? Nous interroge Libération avec un petit croquis qui envisage toutes les combinaisons pour le second tour. Macron-Le Pen, Fillon-Mélenchon, Mélenchon-Macron, etc. Tempête sous le crâne d'un pays entier, toujours indécis, à moins d'une semaine du vote, comme ça tout le monde est d'accord. C'est la purée de pois qu'on fait dans les échos, le dirigeant d'un institut de sondage. 4 candidats sont donc encore susceptibles de se qualifier, mais sans que les critères qui détermineront le choix des électeurs apparaissent clairement, expliquent Judith Ventrob et Marcelo Weissfried dans le Figaro. Dans ce contexte, la dernière ligne droite tourne au casse-tête pour les prétendants. Qui attaquer en priorité ? Une indécision et une volatilité de l'électorat qui influent donc sur la stratégie des candidats et sur celle des électeurs.
On commence par la stratégie des candidats, quoi de nouveau ?
Eh bien, on retiendra que de part et d'autre, ça cogne de plus en plus dur. Chacun choisissant sa cible, évidemment, selon son intérêt. Emmanuel Macron, en panne dans les sondages, est à l'offensive contre François Fillon, nous dit aujourd'hui en France le Parisien, parce que c'est Fillon le vrai danger, explique un de ses proches, et c'est que c'est son électorat qui lorgne. Jean-Luc Mélenchon voit, lui, dans son succès, la confirmation du dégagisme qu'il a théorisé, et donc il durcit le ton contre les sortants, nous dit le Figaro, mais François Fillon tente désormais de lui disputer le label anti-système, poursuit le journal. D'où sa sortie sur Sens commun qu'il voit prêt à intégrer son gouvernement, d'où sa revendication d'être insoumis aux médias avec des répercussions discutables. Ce matin, le site BuzzFeed raconte la façon dont 2 de ses journalistes ont été pris à partie par le service de sécurité du palais Nikaya, où François Fillon était en meeting hier à Nice. Il filmait l'interpellation de 2 agitateurs qui avaient crié « rends l'argent » lors du discours du candidat avant d'être interpellés. Des agents de sécurité ont agrippé l'un d'eux, exigeant qu'il efface sa vidéo sous les yeux de plusieurs membres de l'équipe de François Fillon. Le candidat en personne est finalement intervenu à la tribune pour calmer les huées des militants qui criaient « journalope » ou « merdia ». En tout cas, ce matin, dans La Croix, François Fillon réaffirme sa détermination à s'installer à l'Élysée et à mener les réformes. « Si je suis passé par toutes ces épreuves, ce n'est pas pour reculer demain matin devant la première opposition », dit-il. Quant à l'exemplarité des politiques qu'il a largement vanté pendant les primaires, ben, il ne voit pas où est le problème aujourd'hui. L'exemplarité, c'est de dire la vérité aux Français sur la réalité économique et tenir ses engagements. Un président de la République n'est pas Saint François d'Assise. Et puis enfin Marine Le Pen, qui cogne dur aussi, nous dit le Parisien. Elle revient aux fondamentaux avec du gros rouge qui tâche, avait prévenu son entourage. Pas un mot hier au Zénith de Paris sur les sujets qui clivent, comme la sortie de l'euro. En revanche, retour des slogans de son père sur l'immigration, drame pour la France. Le quotidien L'Opinion tente d'expliquer pourquoi la candidate du FN patine dans la dernière ligne droite. Il y aurait un reflux rapide des électeurs fraîchement séduits, les fonctionnaires notamment, mais plus préoccupant pour elle, note Béatrice Houchard, elle régresse au sein de son propre électorat, moins 6,5% chez ses électeurs de 2012 selon un sondage Elab. Prudence néanmoins, les sondeurs relèvent que le socle électoral de Marine Le Pen, les électeurs qui ne changeront pas d'avis d'ici dimanche, est le plus élevé de tous.
En quoi maintenant l'incertitude sur les noms des 2 finalistes joue-t-elle sur les électeurs ?
Alors pour juger de l'utilité ou de l'inutilité du vote utile, je vous renvoie à la chronique de Thomas Legrand, c'était à 7h45, mais aussi à l'édito de Guillaume Tabar dans le Figaro qui développe lui la notion de vote stratège. Le vote utile tranche entre 2 candidats d'un même camp, et profite à celui qui a le plus de chances d'arriver en tête. Le vote stratège prend lui en compte un risque, explique-t-il. Exemple, un électeur de droite qui ne croirait plus à la remontée de Fillon pourrait voter Macron pour empêcher un second tour Le Pen-Mélenchon. Bon, le problème, c'est que la crainte d'une même finale pourrait faire revenir ce même électeur à Fillon, reconnaît Tabar, autant vous dire tout et son contraire. On est guère avancé. Philippe Ridé l'avoue dans sa chronique mise en ligne dans la matinale du Monde. Il nous tarde d'être enfin dimanche dans le silence de l'isoloir, glisser l'enveloppe dans l'urne, choisir le meilleur pour la France. Nous ne sommes pas si présomptueux, dit-il. Nous avons égoïstement hâte de mettre un terme à notre propre indécision. En finir avec nos interrogations.
Indécision, maître mot donc ce matin, mais tout le monde n'est pas indécis.
Cela commence à ressembler à un mouvement de panique, nous disent Isabelle Chaperon et Dominique Gallois dans Le Monde. Alors qu'ils s'étaient peu exprimés dans la campagne, les dirigeants d'entreprises sortent du bois. Pour preuve, la tribune de 80 d'entre eux publiée par Le Monde hier, appelant à ne pas céder aux extrêmes. Beaucoup, en réalité, se sont déjà engagés derrière Emmanuel Macron, mais ils sont tous inquiets, disent-ils, de l'image destructrice de cette campagne et de son éventuel résultat sur l'image donc de la France. Pour preuve, encore l'activisme de Pierre Gattaz, le numéro 1 du MEDEF, pas moins de 2 tribunes sous sa plume ce matin. Dans le Figaro, pour dire non à l'abstention afin de sauver l'Europe. Et puis dans les Échos, plus explicite encore, pour affirmer « Messieurs Hamon et Mélenchon, Madame Le Pen, vous vous trompez d'Europe ». Et puis cet après-midi, dans Le Monde, ce sont 25 Nobel d'économie qui dénoncent à leur tour les programmes anti-européens.
On termine, Hélène, par un regard étranger sur cette campagne.
Avec un langage, vous allez l'entendre, pour le moins fleuri. John Oliver, dans son Late Show dimanche soir sur la prestigieuse chaîne américaine HBO, rabit pour l'hiver tous nos candidats, mais il cible surtout l'un, enfin l'une d'entre eux. Alors pour bien se faire comprendre, surtout nous, il termine son long sketch en français, s'il vous plaît. Le décor, bistrot Franchouillard, on lui sert du vin, il allume une cigarette à ses côtés.
Il y a tous les clichés.
Évidemment, un accordéoniste, parce qu'il y a un accordéoniste à chaque fois qu'on dîne quelque part en France. Écoutez.
Marine Le Pen est... Comment on dit en français, une trou de cou démagogue. Vous valez mieux que ça. Ceci est votre chance d'être à la hauteur de la philosophie des Lumières. Au secours, la France, vous êtes notre seul espoir. C'est tout pour ce soir. Bonne nuit, mon amour.
Au secours, la France. Je ne sais pas s'il faut déplorer l'image donnée par notre campagne présidentielle ou se réjouir de constater que, pour certains, la France reste un phare des Lumières.